news, c'était plutôt sport. Nous vous proposons une véritable page de sport tout de suite avec Jean Sureda et l'émission Sportez-vous bien.
Sportez-vous bien.
Sportez-vous bien.
Sportez-vous bien. L'actualité sportive commentée par Jean Sureda.
Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue dans Sportez-vous bien sur Radio Présence. Comme tous les lundis, les chroniqueurs et moi-même vous donnerons les dernières infos sportives de la région tout en balayant l'actualité de la semaine avec des invités qui font le sport de haut niveau. Au programme aujourd'hui, les éternels coup de cœur et coup de gueule de nos chroniqueurs. Lucas Serdic nous donnera l'agenda de la semaine New Look, sans oublier les débats avec ce soir le rugby et la différence flagrante de niveau entre le top 14 et la Pro D2 et le football avec le Montpellier Hérault Sporting Club. Enfin, nous recevrons Antoine Albo, le sportif français le plus titré de l'histoire avec nous ce soir. Lucas Serdic, bonsoir Lucas.
Bonsoir Jean, bonsoir à tous.
Maxime Brossard, bonsoir Maxime.
Bonsoir.
Et Timothée Rouvière, bonsoir.
Bonsoir Jean, bonsoir à tous.
Vous commencez très bien l'émission, Timothée Rouvière, bonsoir.
Bonsoir.
On va le dire aux auditeurs pour commencer. On venait de se concentrer et là je vois Lucas Serdic mort de rire et je me tourne. Vous avez cassé le casque.
J'ai pris un retour de casque, ça fait super mal. Je le conseille pas vraiment, ça réveille là, c'est terrible.
Mais c'est ça de regarder une information juste avant le début de l'émission aussi. Voilà, on panique comme ça, on s'affole et voilà, l'accident bête arrive.
Et en parlant d'accident bête, je me tourne vers vous, Maxime Brossa. Parce que vous avez la poisse là aujourd'hui. Hein,
effectivement.
Niveau voiture, on est pas mal. Hein.
La Saxo a perdu son premier combat de sa longue carrière contre un fauteuil roulant. Non, je n'ai pas écrasé d'handicapé. En fait, j'ai voulu éviter une personne à mobilité réduite, on va dire. Et j'ai pris un trottoir et malheureusement,
boum,
la roue a crevé. Boom. Un changement de roue d'ailleurs qui j'avais l'impression que de changer ma roue, ça avait créé une faille spatio-temporelle. Je me suis retrouvé dans la bataille de la Somme. Ah ouais, au milieu de la boue, la pluie, j'étais noir de terre, de cambouis, c'était atroce. J'en suis revenu du feu.
Donc vous avez crevé, il y a Lucas Serdic qui a changé de voiture la semaine dernière, qui est tombé en panne. Vous avez le permis, Timothée Rouvière ?
J'ai le permis, mais j'ai pas la voiture encore.
Ça va.
Vous savez, à 21 ans, on n'a pas encore les moyens de se le payer.
Tout va... Ah bah c'est sûr, on n'est pas...
Non mais le vélo va crever dans pas longtemps. faut se le dire, ça.
Bien sûr, on va parler aussi des paris sportifs.
Et oui.
Y a des vainqueurs, il y a un perdant. Moi-même, j'avais dit victoire du stade français du pain au chocolat contre le stade toulousain. Finalement, c'est vous, Maxime Brossard. Alors, tout le monde a eu juste, à part moi, mais vous avez gagné.
Ouais. J'espère qu'on va faire un classement et il y aura quelque chose à gagner à la fin de l'année.
On avait tous pronostiqué, enfin sauf Jean le mauvais, une victoire du stade toulousain évidemment, mais on avait tous vu un écart un peu plus réduit. Et Maxime,
j'avais vu une belle victoire du stade toulousain, mais je pensais pas que ça allait être qu'ils allaient les atomiser comme ça.
Là, c'était...
J'avais pronostiqué 25-10.
C'était serré en début de match. On se disait que les deux clubs allaient se tenir, mais après ils ont déroulé les Toulousains et l'indiscipline parisienne était soulignée quand même. 4 cartons jaunes, c'est assez
énorme.
C'est incroyable. À ce niveau-là. On verra le pari de la semaine pour
tout à l'heure.
Tout à l'heure, on va parler football, je pense. J'espère que vous êtes prêts pour cette nouvelle émission, messieurs. On démarre maintenant avec les coups de cœur et les coups de gueule.
Sportez-vous bien, les coups de cœur et les coups de gueule.
Chaque semaine, vous nous parlerez d'un événement qui vous a marqué dans la semaine et ce soir. Vous êtes heureux malgré ce qui se passe, ce qui vous est arrivé, vous Maxime, vous Timothée. Oui. Vous êtes heureux, on va débuter avec Lucas Serdic, le football. Et enfin, le Paris Saint-Germain, j'ai envie de dire, perd des points, mais on va surtout cibler les Girondins de Bordeaux.
En fait, vous avez raison, c'est l'ensemble du match que j'ai envie de souligner. C'est pas tant Bordeaux que le fait que Paris soit un petit peu accroché, qu'il rencontre de la difficulté dans ce championnat. C'est bon pour tout le monde, il me semble. C'est bon pour notre Ligue 1 de voir que Paris peut être accroché. Ça va donner peut-être envie à d'autres clubs de donner une belle image d'eux face à Paris et de pas partir perdant. C'est vraiment à souligner que Bordeaux est revenu deux fois au score, qu'ils ont rien voulu lâcher sur ce match, qu'ils ont fait preuve de beaucoup de volonté, d'abnégation. C'est quelque chose qu'on aimerait les voir reproduire en Coupe d'Europe, même si ils vont peut-être pas passer. Mais enfin bref, voilà.
Ils ont une chance de passer au 16e de finale de la Ligue.
Ils ont une chance. Et ce qui est bien aussi, c'est que c'est le genre de match qui peut faire du bien à Paris dans l'objectif d'une Coupe d'Europe réussie, d'un parcours assez long. Parce parce que l'adversité en championnat, on est les premiers à le dire ici, ils la rencontrent pas toujours malheureusement. Et là, là ils y étaient vraiment. Ils ont pas fait un mauvais match les Parisiens, j'ai trouvé. Ils sont juste tombés sur une équipe qui en voulait beaucoup et puis Paris un petit peu diminué, un petit peu soufflé à l'image de Neymar ou même d'Mbappé qu'on a cru voir sortir sur blessure. Bref, il y avait une vraie adversité et c'est ça que j'ai bien aimé.
Timothée Rouvière.
Oui, ça fait du bien de voir Paris un petit peu concurrencé, surtout par Bordeaux qui n'était pas forcément un club en forme de ce début de saison. Donc c'est vrai que c'était un beau match avec pas mal d'occasions. Bon, on sait que l'arbitrage n'a pas été à la hauteur de cette rencontre, mais on pourra toujours redire quelque chose sur l'arbitrage. Mais vraiment un beau match avec pas mal d'occasions. Donc ça fait plaisir. On voit que Paris peut être concurrencé. On a vu que Lyon a fait des très bons matchs en Ligue des Champions cette semaine. Marseille, bon, voilà, on va pas trop dire quelque chose, mais c'est vrai qu'il y a, même s'il y a un gros écart au début de classement, on va en parler avec Montpellier tout à l'heure, c'est agréable de voir Paris se
concurrencer. Et dans une très belle ambiance et dans ce Matmut Atlantique qui est quand même magnifique, on a rarement vu le stade rempli. D'habitude, c'est même carrément clairsemé, ouais. On va pas se mentir. Là, on a vu une belle ambiance, parfois même un peu trop belle, avec des fumigènes qui étaient peut-être un peu trop imposants. Mais vaut mieux voir ça qu'un stade vide, quoi. On a mis autant de sous dans un si bel ouvrage, c'est quand même dommage. Donc voilà, que ça se reproduise avec d'autres équipes, ce serait bien.
On verra ça. Strasbourg accueille le Paris Saint-Germain.
Stade chaud aussi.
Dès mercredi. Encore un gros déplacement pour le Paris Saint-Germain.
Un déplacement qui leur a valu une défaite l'année dernière.
Exactement. On va parler. C'est un gros combat qu'attend le Paris Saint-Germain à Strasbourg. On parle de combat. On revient vers vous. Vous nous avez donné un coup de cœur la semaine dernière sur le match à venir entre Fury et Wilder.
Oui.
C'est toujours votre coup de cœur.
Ah oui, toujours.
Le match a été fantastique.
Je me suis levé à 5h du matin. J'avais les yeux qui collaient un peu, mais je n'étais pas mécontent d'avoir fait l'effort. Franchement, c'était un des plus beaux combats que j'ai vu de ces 5 dernières années. C'était magnifique. On avait un Tyson. Ça s'est fini déjà, il faut le préciser pour les auditeurs. Ça s'est fini par un match nul.
Ce qui est très rare. Hein.
Ce qui est très rare. Et surtout, en fait, c'est un peu tendancieux parce que certes, Tyson Fury est allé deux fois au tapis. Mais il a largement dominé ce combat. Et pour beaucoup d'observateurs, c'est lui qui aurait dû gagner ce combat. On l'a vu, c'est un Fury comme je disais, ça faisait depuis 2015 qu'il n'avait pas vraiment fait de réel combat. Il avait fait deux combats auparavant, mais qui étaient contre des boxeurs pour se remettre en forme.
Depuis Klitschko, il n'avait pas vraiment
pas vraiment pris de top boxeur. Là, il est tombé sur Wilder, dont je suis pas le plus grand fan, mais qui m'a réconcilié avec ce combat. Je me suis réconcilié avec lui parce que je l'ai trouvé vraiment dans l'adversité, et on a vu que c'est quelqu'un qui avait du caractère et que c'était pas forcément qu'un type qui avait fait 40 combats dans 39 KO que contre des types qui étaient pas en forme ou qui étaient pas assez prêts. Et voilà, ça a été vraiment un gros coup de cœur comme je n'avais pas eu depuis longtemps pour la boxe.
Le Wilder, vous ne l'aimez pas trop.
Ouais.
Qu'est-ce qui a changé là sur ce combat ?
C'est ça, c'est qu'en fait,
qu'est-ce qu'on lui reprochait avant ?
En fait, avant, je lui reprochais un peu la façon dont il avait managé sa carrière. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui avait souvent évité les plus forts.
À 33 ans, il n'avait pas beaucoup de références.
Voilà, où il avait pris vraiment les meilleurs quand ils n'étaient pas forcément au top de leur niveau, comme Berman Stevern. Il avait pris, il était hors de forme. Et après, il avait fait un combat contre Luis Ortiz, qui est un Cubain qui est plutôt reconnu dans le monde de la boxe. Mais il revenait d'une suspension pour dopage. Et puis, bon, Luis Ortiz avait dominé ce combat aussi, un peu comme Tyson Fury, sauf que Wilder avait renversé vraiment la vapeur dans la 9e reprise. Et là, vraiment, il a été dans l'adversité parce que du début à la fin, il a pas réussi à. Il était derrière au point, quoi.
En fait, c'est ça qui était beau, c'est que Tyson Fury a dominé, mais que malgré tout, il y a eu deux knockdowns et que. Voilà. Ça a renversé le combat et c'est ce qui fait qu'il va peut-être rester un petit peu dans les mémoires.
Ben c'est ça, que le combat va rester dans les mémoires et que Wilder a pris une autre dimension après ce combat aussi. On a vu que les deux boxeurs
c'est beau d'avoir vu aussi Fury se relever à 9 alors que vraiment quand on le voit tomber, on est persuadé qu'il va pas se relever aussitôt.
Quand ça fait 3 ans que vous avez pas pris un KO de ce type, et puis là se relever, et puis il avait perdu 30 kilos pour le combat. Faut dire que c'est quelqu'un qui était alcoolique, qui a eu une addiction aux drogues et qui c'est vraiment une renaissance pour lui. Et vraiment, là, on a vu. Non, c'était vraiment une belle histoire. Une histoire comme seule la boxe peut raconter. C'est pas pour rien que les plus beaux films de sport, généralement, c'est les films de boxe. Hein. Voilà,
Non, mais il a raison pour les films de sport. C'est vrai qu'on a rarement versé une petite larme devant un film de sport sur le foot, quoi. On va pas se mentir. Alors que la boxe, effectivement, Million Dollar Baby, Ali, il y a eu des très beaux films. Rocky.
Et bien sûr,
grand Rocky.
Heureusement. Il y a eu deux coups de cœur. Tiercé gagnant dans l'ordre, j'ai envie de dire. Le troisième coup de cœur, Vous êtes tous heureux.
Je le partage, voilà. Hein, je le dis, hein, très
voilà,
clairement.
Voilà, Lucas Cerdic le partage volontiers, je pense que Maxime Brossard.
Bien sûr.
Pareil, on va parler biathlon et l'équipe de France qui remporte la première épreuve de la saison.
Oui, c'était le lancement de la saison à Poljuka en Slovénie. Deux courses pour les biathlètes, un relais mix simple où les Français ont décroché la quatrième place au pied du podium avec Anaïs Chevalier et Antonin Guigona. Bon, les Français étaient pas mal placés dans le groupe de tête, mais les trois pénalités sur le dernier tir du Français ont compliqué un petit peu le podium. C'est la Norvège qui s'impose devant l'Autriche et l'Ukraine. Mais surtout, le très beau résultat, c'est la première place sur le relais mix. Je rappelle, les Français sont champions olympiques en titre. Donc Anaïs Bescon, Justine Brezza, Martin Fourcade et Simon Détieu qui devancent la Suisse et l'Italie. C'était un petit peu
largement.
C'était un petit peu la première course de la saison. Les Français n'ont pas participé aux courses d'avant-saison et première victoire. Donc c'est plutôt pas mal. Et c'est aussi l'occasion de faire un petit point sur les objectifs de cette saison de biathlon. Martin Fourcade, qui a remporté 7 globes consécutifs, va tenter de la passe de 8. Hein, on espère que ça va être possible. Les autres Français, que ce soit Simon Détieu et Quentin Fillon-Maillet, ça risque d'être compliqué pour le classement général, mais on espère qu'ils vont décrocher des petites victoires, en tout cas, ou viser le top 10. Et pour les filles, après la retraite de Marie Dorin-Habert, qui est plusieurs fois championne du monde, que ce soit Justine Brezza, Anaïs Chevalier ou Anaïs Bescon, elles se battront pour aussi des victoires de prestige. Et une dernière petite date pour les amateurs de biathlon, c'est les mondiaux Östersund en Suède, du 7 au 17 mars prochain.
Lucas Cerdic.
Oui, non, mais ce qui est encourageant avec ce relais mix, c'est qu'effectivement, comme tu l'as dit, Timothée, Marie-Dorin Habert a pris sa retraite. Donc, il y avait une relève à prendre. Justine Brezat, l'année dernière, a fait une saison très convaincante. Anaïs Bescon, ça fait quelques saisons déjà qu'elle est solide, même si irrégulière. Donc là, c'est bien de commencer comme ça. Martin Fourcade n'a pas été flamboyant, en plus. Il a été bon. Il a été très bon au tir, comme il sait le faire. Mais sur les skis, c'était peut-être pas sa meilleure, il était loin de son meilleur niveau, je pense. Mais bon, c'est encourageant de voir que voilà, tout le monde a pris un petit peu de confiance. Et là, il va falloir vraiment qu'il fasse de plus en plus parler son expérience. En plus, Martin Fourcade, parce que Johannes Bö continue, à mon avis, d'être légèrement au-dessus de lui sur les skis. Vivement cette saison qui s'annonce.
C'est ce que j'allais dire, c'est qu'avec le duel avec moi, je suis le biathlon de loin, mais je suis pas un grand spécialiste. Moi, ce que j'aime bien, c'est ce duel qu'il y a entre les deux.
C'est incroyable.
Ça joue au ski, un coup ça joue au tir. Enfin, c'est magnifique.
L'année dernière, c'était vraiment fou parce qu'ils ont tout gagné quasiment.
Ouais,
c'est incroyable le nombre de victoires qu'ils ont emmagasiné tous les deux en Coupe du Monde, parce que après les championnats c'était un petit peu différent, mais en Coupe du Monde ils avaient quasiment tout gagné. Enfin, on n'a jamais vu un duel aussi épique.
Et c'est bien pour la France aussi que Martin Fourcade, c'est un des porte-drapeaux du sport français, donc forcément qu'il y soit, quoi. C'est comme un magasin, que les Teddy Riner, que les
mais voilà. il est même au-dessus, c'est le français le plus titré de l'histoire de l'Olympe, quoi, aux Jeux Olympiques. Il y a personne qui a plus de médailles d'or.
Est-ce que le sportif français le plus titré,
voilà,
On l'a tout à l'heure. Dans un peu moins d'un quart d'heure. Merci messieurs, que des coups de cœur, ça fait vraiment plaisir. Vous êtes tout souriants.
De l'amour, oui.
Voilà.
On a évité de parler du TFC, voilà tout.
On en parlera la semaine prochaine. Ils vont battre Lyon, on en parlera peut-être tout à l'heure. On se retrouve nous dans moins de 4 minutes avec les conseils santé de Didier Rubio. À tout de suite. C'était Gérald De Palmas sur Radio Présence.
Portez-vous bien, l'instant santé.
La chronique santé sur Radio Présence avec vous, Didier Rubio. Et cette semaine, on va parler antioxydants. Qu'est-ce que c'est ?
Bonsoir Jean. Alors, les antioxydants, voilà, sont des molécules qui sont capitales parce qu'elles vont avoir la capacité à, je dirais simplement, nettoyer ou empêcher l'organisme de s'encrasser. Donc, il y a des vitamines dont on a parlé la semaine dernière, si ma mémoire est bonne.
Oui. Les micronutriments.
Et c'était dans les micronutriments, exactement, dont les antioxydants sont, par exemple, la vitamine C, c'est un antioxydant. La vitamine E, qu'on trouve dans la mâche, qu'on trouve dans les avocats ou dans l'huile, ça, c'est un antioxydant. Et ensuite, ce qu'il faudra retenir aujourd'hui, j'espère, c'est que tous les colorants naturels, c'est-à-dire que l'on va trouver dans les fruits et les légumes principalement, sont des antioxydants.
C'est ce qui donne, pardon, la couleur aux fruits, légumes et aux produits alimentaires.
Et par exemple, le plus connu, c'est le lycopène. Le lycopène, c'est rouge, c'est ce qui est contenu dans les tomates et dans la sauce tomate. Donc moi, je conseille l'été de manger des bonnes tomates en pleine saison et l'hiver, de ne pas consommer de tomates, mais par contre, de consommer l'équivalent du ketchup ou de la sauce tomate parce que le lycopène va se concentrer. L'été, par exemple, il y a les bêta-carotènes, c'est ce qu'on va trouver dans le melon, dans les carottes. Ça protège, par exemple, du soleil. La couleur violette, les flavonoïdes, c'est-à-dire les betteraves, le chou rouge, ça, c'est génial. C'est des antioxydants très puissants.
Pareil, est-ce que les antioxydants pour la carotte, parce que, pareil, c'est une couleur assez vif, hein, orangée, est-ce que c'est important aussi ?
Oui, tout à fait. Alors, dès que c'est pris naturellement, ça a vraiment une fonction qui est très importante.
Et la couleur est la même partout, c'est-à-dire qu'on a le même antioxydant dans la carotte que dans l'orange.
Dès l'instant où la couleur est proche de cette orange, couleur orangée, c'est vrai que c'est des bêta-carotènes. Quoi.
Le juste milieu pour un sportif, pour les antioxydants, c'est compliqué à dire. Il est où ?
Alors déjà, pour la personne lambda, il y a vraiment un juste milieu. Et le sportif aussi. Lui, par contre, le sportif, il va oxyder, on va dire, son organisme plus que les autres, parce qu'en fait, il utilise plus d'oxygène. Puisqu'en fait, il court, il fait du sport, donc il s'oxyde plus. Donc, il a intérêt à avoir une alimentation de très bonne qualité, de manière à conjuguer ses antioxydants. Mais par exemple, si on s'intéresse à la complémentation nutritionnelle, il faut être très prudent. Parce que, par exemple, la vitamine C, s'il y en a suffisamment, ok, ça va annihiler un peu les radicaux libres. S'il y en a trop, ça devient pro-oxydant. Donc, c'est un peu compliqué. Le bêta-carotène, c'est pareil. Il faut faire attention parce que dans la pathologie pulmonaire, il y a eu des études qui ont été faites avec des compléments bêta-carotène. Ça a fait flamber la pathologie cancéreuse pulmonaire. Donc, avec les aliments, on risque rien. Avec la complémentation,
il y a des risques.
Il y a des risques, il faut se faire aider par des professionnels. Quoi.
Et Didier Rubio, merci.
Avec plaisir.
On le rappelle, vous êtes diététicien et nutritionniste du sport, spécialisé en éducation thérapeutique. Vous travaillez également à mi-temps, hôpital des enfants et aussi en activité libérale dans le sport et la santé. Vous avez été formé en qualité de vie au travail et dans le sport. En plus, vous êtes conférencier et micronutritionniste. Vos coordonnées sont à retrouver sur Radio Présence.
Sportez-vous bien ? L'agenda sportif.
Et l'agenda sportif New Look depuis la semaine dernière. On a parlé des paris en début d'émission. Il y aura un nouveau pari. On va parler football pour ce pari. Mais je crois qu'on va commencer avec du rugby.
On commence toujours avec le rugby.
Toujours.
Enfin, c'est très important de commencer par le rugby.
On commence par le rugby.
Exactement. D'autant que là, le programme est chargé et c'est le retour de la Coupe d'Europe pour nos clubs de l'élite. Et ça nous fait toujours un petit peu vibrer. Même si malheureusement, on n'aura pas beaucoup l'occasion de regarder les matchs ici dans notre région. Le Stade Toulousain va se déplacer. Chez les Wasps. Et là, ça va être un gros match. D'autant que les Toulousains ont très très bien commencé la Coupe d'Europe. On se souvient de la victoire à Basse et de l'exploit face au Leinster. Ce sera samedi à 18h30. Les Toulousains qui restent donc sur un carton face au Stade Français, 49-20. Ça fait plaisir. Pendant ce temps-là, Castres va jouer au Munster. Là, ça s'annonce aussi un petit peu hard pour les Castrés qui ont perdu face à Agen à domicile 16-13 à la surprise générale.
Ce sera au Munster
et c'est dimanche à 14h. Et en challenge pour va accueillir Worcester.
Voilà. Ah oui. C'est la troisième journée aussi en challenge européen. Pau qui va pas très bien puisqu'ils ont perdu à Lyon 30-10, n'est-ce pas
Ne m'en parlez pas.
On n'en parle pas. On n'en parle pas.
Non, non, non.
Donc le Pau Werster, ce sera vendredi à 20h pour les Palois que ça intéresse. En Pro D2, par contre, on continue à jouer et ce sera la 14e journée avec quelques rencontres intéressantes. Montauban qui va accueillir Massy, c'est le 11e contre le 16e. Ce sera vendredi à 20h et dans le même temps, Colomiers va accueillir Bayonne, le deuxième.
Ouais, oui. D'ailleurs, à ce propos, il y aura à Colomiers, pour les gens, en plus du match, il y aura le foire de Noël. Voilà.
Le foire de Noël.
Ouais, ce sera vendredi et samedi avec plein d'animations. Voilà,
c'est sympa.
Ça peut être sympa d'y aller. Ouais.
Vendredi à 20h face à Bayonne. En plus, c'est un gros match. Hein. Bayonne, deuxième de Pro D2, qui reste sur une victoire face à Vannes, 16-14, alors que Colomiers a perdu à Angoulême. Colomiers qui va pas fort, quoi. 14e. Dimanche à 14h15, l'affiche, c'est Carcassonne et Oyonnax, le 6e contre le 5e. Malheureusement, Carcassonne a craqué un petit peu à Nevers. Hein, on s'en doutait un petit peu, mais ils ont perdu lourdement 41-10. Mais ils sont toujours 6e, les Audois. Ce sera intéressant à suivre dimanche à 14h15. Quelques petits mots de Fédéral 1, on est obligé.
Ah, le rugby, enfin. Le rugby. J'attendais le rugby.
Du vrai rugby, Fédéral 1, Blagnac, 2e, accueille Rodez. Blagnac qui a explosé, Florence, on s'y attendait. Oui. 48-0. Le match, c'est dimanche à 15h. Blagnac, a priori, contre Rodez, ça pourrait le faire.
Ça pourrait le faire, mais c'est une belle petite équipe de Rodez. Venez nombreux.
Ça va être sympa. Dimanche à 15h, dans le même temps, Saint-Sulpice qui a joué contre Castanet. On en a parlé de ce derby. C'est Castanet qui a gagné 31-20.
Oui. C'est ça, hein? Oui, c'est ça.
Saint-Sulpice se déplace à Nîmes et Florence se déplace à Castanet. Enfin, Castanet accueille Florence plutôt. Voilà. Pour le mot de poule 3, on va juste dire, parce qu'il y a un match vraiment intéressant en poule 2, c'est Albi qui accueille Tarbes. Ah, le premier contre le troisième. On a quand même deux historiques du rugby français qui vont se jouer dimanche à 15h. Voilà pour le rugby.
On peut passer au football.
On va passer au football. Allez, Ligue 1, parce qu'il y a un gros programme. Il y a deux journées annoncées, la 16e et la 17e. La 16e commence demain soir, mais le match qui va nous intéresser, ce sera plutôt mercredi. Le TFC se déplace à Reims à 19h. Un match, j'ai envie de dire, encore un match de la peur quoi, pour le TFC, qui a concédé un nul. Bon, moi, j'ai envie de dire piteux, mais bon, on n'est pas tous d'accord sur ce plateau. Deux partout face à Dijon, et visiblement, quand même, les entraîneurs étaient plutôt d'accord avec moi, hein, puisqu'à la mi-temps, ça a bien crié dans les vestiaires. On écoute le coach Casanova.
C'était des cons. C'était des gros cons parce que j'ai pas été le seul. Je pense que le président a su leur dire aussi que c'était des gros cons parce que voilà, c'est indigne de leur potentiel. C'est indigne de ce qu'ils sont capables de faire. J'ai beaucoup de respect pour toutes les équipes et encore plus pour Dijon. Mais je pense qu'on devait être capable de leur mettre beaucoup plus de pression et de faire un match où ils devaient se sentir dans l'insécurité d'entrée avec une équipe qui avait envie de leur marcher dessus physique, mental, qui avait envie de leur marcher dessus sur le plan du jeu. Et on n'a pas su le faire. Et notre première mi-temps, et ben on se met dans la merde tout seul. Et donc, comme je l'ai dit, eux, leur entraîneur, leur staff, on est des gros cons sur la première mi-temps, tout simplement. Après, sur la deuxième mi-temps, je pense qu'ils ont fait énormément d'efforts. Ils sont allés au bout de leurs limites avec un dépassement de soi remarquable. J'aurais aimé qu'à 2-2, on soit capable, je dis bien on soit capable sur le plan physique de continuer sur notre lancée. Mais je pense que les joueurs avaient tellement donné pour revenir au score que ça a été compliqué. Je ne vais pas me contenter du point d'être revenu. C'est vrai qu'il est un peu inespéré et puis il fait toujours du bien dans ce scénario, dans notre situation. Mais c'est insuffisant par rapport à ce qu'on voulait faire et à ce qu'on a fait.
Heureusement qu'ils n'ont pas perdu le TFC.
Ouais, ça aurait vraiment fait très très mal là.
Alain Casanova n'était pas content à la mi-temps et en conférence de presse.
Oui, hein. Oui, mais en même temps, 2-2 à domicile face à Dijon qui restait sur, je crois, 11 matchs sans victoire. C'est vraiment embêtant. Et se prendre un rouge au bout de 5 minutes, c'est vraiment embêtant. Enfin bref, ça ne va pas. Et là, le TFC va donc jouer à Reims, qui est 9e et qui marche vraiment très bien en ce moment, mercredi à 19h. Et ils ont plutôt intérêt à bien se lancer parce qu'après, il y a un gros morceau qui s'annonce au stadium. C'est Lyon qui arrive samedi à 20h. TFC Lyon, gros match pour la 17e journée de Ligue 1. On va faire un tout petit, une petite exception. On va parler un petit peu de ce qui se passe à l'international avec l'équipe de France parce qu'il y a eu le tirage au sort cette semaine de la poule des éliminatoires pour l'éliminatoire de l'Euro 2020. Les Français qui ont hérité donc dans l'ordre de difficulté, on va dire, d'Islande, Turquie, de l'Albanie, de la Moldavie et d'Andorre. Nos voisins d'Andorre. Donc c'est un tirage plutôt clément. Hein, donc tout le monde le concède. Ça commencera le 22 mars par un débat. Placement en Moldavie et ensuite le 25 mars, la réception de l'Islande. On va passer à un autre sport maintenant, le handball.
Juste un petit peu, on parle sur les paris
Toulouse.
Oui, pardon. Le Paris.
Le Paris.
TFC Lyon, la 17e journée alors, messieurs.
Messieurs, je me lance. Vu que l'Olympique Lyonnais jouera son match couperet de Ligue des Champions 3 jours après, ils vont venir ici à Toulouse sereinement. Ils vont en prendre 2. Terminé, 2-1 pour Toulouse.
2-1 pour Toulouse.
2-1 pour Toulouse.
Moi, je dis presque plutôt 0-2.
2-0 pour Lyon. Pour Lucas Cerdic, Maxime Brossard.
Je vais parier sur une victoire du TFC, 1-0.
Timothée Rouillet.
Moi, une victoire lyonnaise, 1-0.
Coraline, la réalisatrice.
Moi, je parie sur un match nul, 1-1.
Et Grégoire, le réalisateur.
Oui, moi venant de Lyon l'année dernière, plutôt 2-0 pour Lyon.
Ah, voilà.
Je m'attendais à un pari, moi.
Oui, voilà, parce que la semaine dernière, on la rappelle.
Je pense qu'on aurait pu faire un running gag là-dessus.
C'est vrai.
Ça m'aurait bien plu. Allez, on enchaîne sur le handball avec la D1, c'est la 12e journée. Le Phoenix va se déplacer à Istres alors qu'ils ont gagné pour la première fois en championnat la semaine dernière. C'était 29-25 face à Ivry. Donc c'est bien pour les Toulousains qui vont se déplacer à Istres. C'est mercredi à 20h. Un mot de volet. La Liga joue la 10e journée. Toulouse marche pas mal puisqu'ils ont gagné 3-7-1 face à 7 justement semaine dernière.
C'est beau, mais
la semaine prochaine, ils ne vont pas jouer parce que en fait, c'est un championnat à 13 équipes.
Oui, une équipe
vous saviez, voilà, peut-être. Donc, il y a une équipe exempte à chaque journée. Et cette fois-ci, c'est Toulouse qui ne jouera pas. Mais Toulouse est 8e et ne marche pas trop mal en ce moment. Et un mot, évidemment, on est obligé de terminer par le hockey, comme d'habitude. Le TBHC, Blagnac, qui a gagné face à Valence 7-5 pour le premier match de la phase retour et qui va se déplacer à Limoges. Ce sera samedi à 18h30. Voilà, le TBHC qui marche bien.
Oui, il marche bien. Il marche plutôt très bien même. Et puis là, déplacement facile, je pense à Limoges, devrait pas y avoir photo, à moins que les Limougeaux qui avaient pris 10 buts à Blagnac là, il y a 3 semaines se disent bon, on va mettre les barbelés, mais bon, même s'ils font ça, je pense que ça suffira pas à arrêter le TBHC. Il faudra surtout se projeter sur le match d'Annecy qui va être incroyable dans 2 semaines.
Chouette.
Merci Lucas, on passe au premier débat de la soirée.
Sportez-vous bien. Le débat.
Dernier et avant-dernier, les deux promus Grenoble et Perpignan ne semblent pas être en mesure de se maintenir facilement. Un écart important entre les deux divisions du rugby national se creuse. Messieurs, on ne répond que par oui ou par non. L'écart entre le top 14, donc la première division, et la Pro D2 est-il trop important? Lucas Cerdic.
Non.
Maxime Brossard.
Ouais.
Et Timothée Rouvière.
Oui et non.
Oui et non. On va partir sur Maxime Brossard.
Ouais.
Oui. Ouais. L'écart est vraiment important.
Je vais dire oui et non. Bon, l'écart déjà financier, oui. Ensuite, l'écart, on va dire technique et tactique, enfin au niveau du jeu pur. C'est vrai que cette année, quand on regarde le classement et même quand on regarde un peu les éditions précédentes, ça parle pas forcément en faveur de la Pro D2. Mais je pense que la Pro D2 est un très bon championnat qui est formateur pour les jeunes, notamment qui sont en quête de temps de jeu dans des équipes de top 14 et qui, voilà, je prends l'exemple de Thomas Ramos ou de Hamdaoui qui joue au Stade Français. Les deux étaient face à face ce week-end. Et ils sont des joueurs qui ont explosé en Pro D2, qui se sont aguerris en Pro D2, qui sont revenus plus forts en top 14. Donc je pense que. Je vais dire oui, du point de vue financier, c'est compliqué de lutter avec une arme quand ils montent en top 14, mais du niveau du jeu pur, ça peut être intéressant pour nos jeunes.
Timothée Rouvière.
Moi, un petit peu comme Maxime, au niveau financier, c'est vrai qu'il y a un fossé. On sait qu'il y a des grands milliardaires français qui ont investi dans des clubs de top 14, donc c'est vrai que les budgets sont assez conséquents.
Pardon, je vous coupe sur les budgets. On prend l'exemple de la saison. Le dernier budget de top 14, c'est Agen avec un peu moins de 14 millions d'euros. Le premier de la Pro D2, c'est Nevers avec un peu plus de 12 millions d'euros. Il y a déjà un énorme écart entre le dernier budget et le premier budget de Pro D2.
C'est ça, oui, c'est ça aussi.
L'écart n'est pas énorme du tout.
Il y a un million.
Alors, quand on sait l'argent que brasse le top 14, qui est quand même réputé pour être le meilleur championnat du monde, je trouve pas que ce soit un écart si significatif que ça. Le plus gros budget du top 14 n'est que trois fois supérieur au plus gros budget de Pro D2. Si on compare au foot, ça fait peur.
Les joueurs sont moins chers aussi. Donc, il y a moins de stars, moins chers. Après, l'avantage financier est prépondérant dans un sens où. Au rugby, ça peut vous permettre facilement d'avoir une équipe de remplacement, voire deux équipes de remplacement. Voilà. Donc, sur certains matchs, ça peut permettre de faire souffler et de pouvoir garder ses joueurs frais pour les matchs vraiment décisifs.
On parle de budget, on parle d'argent. Est-ce que l'argent est nouveau roi
dans le rugby hexagonal, Lucas Cerdic.
Oui, oui, d'une certaine façon, c'est assez évident, puisque en général, les clubs qui montent de la Pro D2 au top 14 et qui arrivent à en rester sont des clubs qui bénéficient d'un budget assez conséquent. Ça a commencé il y a une dizaine d'années par Toulon et le Racing qui sont revenus à un retour fracassant, voilà. Montpellier aussi, peu à peu, dont le budget a augmenté. Là, on voit que Lyon est cinquième budget, quatrième au championnat sportivement, on va dire. Lyon est parti pour rester maintenant. Bordeaux-Bègle aussi, ça fait quelques années qu'ils se sont installés. Il y a des exceptions. Je pense à La Rochelle qui n'a pas non plus septième budget maintenant. Mais bon, quand ils sont remontés, ils étaient bien en dessous et qui arrivent à se maintenir parce qu'ils ont une politique sportive très 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 intéressante. De manière générale, effectivement, le budget aide largement à se maintenir en top 14. C'est une évidence. Mais je trouve pas qu'en termes de jeu pur, il y a une si grosse différence que ça. Moi,
Timothée Rouvière.
À la différence du foot, moi je dirais que le budget fait pas tout. On peut prendre l'exemple de Castres qui est seulement, là je vois, dixième budget avec 23 millions d'euros et qui est quand même champion de France l'année dernière. On voit que le Stade français, qui est premier budget avec 34 millions d'euros, a bien marché en début de saison, mais c'est un peu plus compliqué maintenant. Ouais, donc
ça vient d'arriver.
On peut pas comparer le foot et le rugby, c'est sûr, en termes de budget.
Non, c'est pas comparable. Bon, après, pour le Stade français, c'est un peu particulier puisque le Hans-Peter Wald a vraiment mis, on va dire, le chèque cette année. Mais après, on va dire que il y a deux. En fait, en rugby, on va plutôt parler, je pense, de deux types de financement différents, en fait. C'est-à-dire maintenant, ce qui va arriver dans le rugby, c'est qu'il va y avoir deux camps. Il va y avoir le camp de l'économie, finalement, avec donc un grand mécène ou une grande entreprise qui va soutenir qui va soutenir un club. Et après, vous avez aussi des modèles, on va dire, un peu plus, on va dire,
vertueux.
Pas vertueux, mais on va dire qui rassemble plusieurs partenaires, comme par exemple, je pense, le modèle d'économie du Stade Toulousain avec les amis du Stade Toulousain. Je pense à La Rochelle aussi, où c'est un conglomérat de plusieurs entreprises avec Vincent Merlin qui chapeaute un peu tout ça. Voilà. Donc ça va plutôt tendre vers ça. C'est-à-dire, on va voir justement qu'est-ce qui va marcher le mieux. Est-ce que c'est vraiment l'Armada avec le Altrad ou Hans-Peter Wild qui vont coucher les sous sur la table, ou est-ce que ça va être vraiment la vertu, peut-être, plutôt la solidarité des partenaires qui peuvent faire marcher un club, quoi.
Oui.
On peut aussi mettre en avant la formation. On voit notamment que Clermont et le Stade Toulousain sortent des pépites quasi toutes les saisons. Donc c'est vrai qu'il y a deux, comme dit Maxime, il y a deux types de modèles économiques. Soit on investit sur des grosses stars comme Toulon, le Racing ou Montpellier. Soit on se base aussi. On peut aussi acheter ces stars pour que le club soit connu à l'international, mais il faut aussi se baser sur la formation.
S'il y avait un si gros écart entre les deux championnats, j'ai envie de dire, à chaque fois que quelqu'un descend en top 14, il remonterait aussitôt. Parce que ça voudrait dire que, voilà, l'écart est tellement grand que de toute façon.
Ce qui n'est pas le cas.
Ce qui n'est pas le cas. On voit qu'à chaque fois, il y a quand même des clubs qui ne remontent pas forcément tout de suite, qui galèrent un petit peu, même qui s'enlisent. Je pense, Biarritz, ça fait quelques saisons maintenant qu'ils sont.
Perpignan
a mis du temps à remonter. Bayonne, là, ça fait quelques saisons. C'est la deuxième ou troisième, je ne sais plus.
Ouais.
Brive n'est pas du tout assuré de remonter tout de suite quand on voit que Nevers marche fort. Si c'était si facile que ça, pour les clubs qui descendent de top 14, ils remonteraient immédiatement, et c'est loin d'être le cas.
Dans le rugby mondial, c'est l'Irlande et la Nouvelle-Zélande qui dominent, on en parle souvent ici. Ces deux pays ont une ligue fermée. Vous me voyez venir. Alors désolé pour les clubs de Pro D2, mais est-ce que pour l'intérêt du championnat du rugby français, indirectement de l'équipe nationale du 15 de France, est-ce qu'il faut pas, y a pas un intérêt à passer à une ligue fermée?
Ça peut être intéressant de passer à une ligue fermée, je pense, ou du moins se calquer peut-être sur le modèle anglais avec peut-être une seule descente en top 14. Je pense que c'est bien parce que déjà ça met un peu moins de pression sur les clubs, ça permet de faire jouer les jeunes, de faire tourner et de lancer des jeunes.
C'est ce qui se passe en Nouvelle-Zélande.
Oui, surtout ce que je prenais l'exemple de Leinster contre les Dragons de Newport, il y avait 43 Gallois sur la feuille de match, c'était que des jeunes, ils ont joué contre l'équipe de Leinster, ils se sont fait atomiser, mais bon, ils ont quand même emmagasiné de l'expérience, et je pense qu'au fil des années, cette franchise de Newport va faire émerger des jeunes Gallois performants, et ces jeunes Gallois après iront peut-être en équipe nationale, en sachant qu'ils n'ont pas la pression de descendre. Après, de notre côté, ça casse l'enjeu. Voilà, ça casse l'enjeu.
Lucas Cerdic, je vois que vous avez du mal.
J'ai beaucoup de mal avec ce principe de ligue fermée. Je trouve ça dommage. Pourquoi on s'arrêterait maintenant? Ça veut dire que voilà, tous les autres clubs qui étaient là avant, tant pis, vous êtes descendus. Vous n'aurez jamais pu l'occasion de remonter. Il y a des villes qui vont mourir comme ça de l'intérêt du rugby. Regardez, si on dit à Biarritz, tu joueras plus jamais dans l'élite, c'est dingue, quoi.
Biarritz, Bayonne, Colomiers.
Vous imaginez le nombre de clubs, et on ne parle même pas de ceux qui sont en fédéral.
une aujourd'hui et qui espère, j'imagine, un jour remonter. On pensait à Albi, mais effectivement, Tarbes aussi. Enfin bref, c'est moi, je sais pas.
C'est vrai que c'est pas sportif.
J'aurais vraiment fait Alex.
En fait, c'est tout pour la sélection nationale, quoi. C'est surtout ça, c'est.
Timothée Rouvier.
Oui, moi je suis d'accord avec Lucas, c'est vrai que ce principe de ligue fermée.
C'est anti-sportif.
C'est anti-sportif, ça risque de frustrer énormément de clubs. Financièrement parlant, ça risque aussi d'être compliqué pour des clubs qui sont en deuxième ou troisième division. Et surtout, ça va casser tous les enjeux. Si on reste sur 6 places qualificatives en phase finale, ouais, ça risque de casser les enjeux et il y aura moins de spectacles dans
les matchs. Ça casse les enjeux, mais finalement, en fait, ça va dire que ça favorise plus la sélection nationale. Après, comme on voit, voilà, il suffit de regarder les stades de la Ligue Celt ou du Super Rugby, et c'est vide, quoi. Il n'y a personne parce que finalement, ben, il n'y a plus trop d'enjeux, voilà, même quand il y a les phases finales, l'enjeu de match de descente aussi, ça peut être intéressant, ça peut fédérer du monde. Et
en fait,
comme on revoit tout le temps les mêmes équipes, ben, ça ne crée pas d'émulation et ça ternit un peu.
Se priver d'une finale de Pro D2 comme l'année dernière, avec la ferveur qu'il y a eu, ce serait trop dommage pour moi.
On merci messieurs, on verra l'évolution du rugby français avec le top 14 et la Pro D2. On se retrouve dans moins de 4 minutes et nous serons avec notre invité Antoine Albault.
No, I never knew you at all. You had the grace to hold yourself while those around you crawled. They crawled out of the woodwork and they whispered into your brain. They set you on the treadmill and they made you change your name. Never knowing who to cling to when the rain set in. And I would have liked to know you, but I was just a kid. Your candle burned out long before the legend ever
John sur Radio Présence.
Portez-vous bien. L'invité.
Notre invité est exceptionnel. Il est le sportif le français le plus titré de l'histoire. 12 fois champion de France, 4 fois champion d'Europe et surtout 25 fois, j'insiste, 25 fois champion du monde. Antoine Albault a un palmarès gigantesque, maître de son sport, la voile. Il n'est pourtant pas connu comme sportif de très haut niveau, malheureusement, aux yeux du grand public. Antoine, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Vous êtes véliplanchiste, c'est le terme pour les sportifs de planche à voile. Vous pratiquez ce sport depuis tout petit, vous êtes tombé dedans.
Voilà, véliplanchiste, ouais, c'est la planche à voile, c'est le windsurf. Tombé dedans très tôt, vu que mon père était un des précurseurs de la planche à voile dans les années 70 en France. Et puis il a ensuite monté une école de voile qu'on a toujours dans l'île de Ré. Et puis, moi je suis arrivé dans ces années-là et puis j'étais comme tu as dit, tombé dedans. Ouais.
Le papa est le fidèle supporter, et c'est bien ça?
Oui, bah, fidèle supporter, mais il y en a d'autres, hein. Il y a toute la famille quand même.
Oui.
Et puis il y a beaucoup d'amis, ouais, bien sûr.
Vous êtes finalement, on peut le dire, l'un des rares hommes au monde finalement à aimer le vent, parce que c'est ce qui fait votre sport, le vent finalement.
Il y en a d'autres qui aiment le vent, il y en a beaucoup d'autres. Tous les sports de voile, bien sûr, ils aiment le vent. Hein.
Qu'est-ce qui vous plaît dans ce sport, la planche à voile?
Bah, déjà, c'est un sport très professionnel, hein. Les compétitions que je fais ou que d'autres font, c'est vraiment un sport super professionnel. Et puis, l'élément de la mer, l'élément de pouvoir naviguer seul, de pouvoir naviguer en groupe, de faire des compétitions, de pouvoir faire des longues distances, d'aller plus ou moins là où on veut quand le vent est là. Donc, c'est un petit peu ça aussi. Et puis, comme on l'a dit au début, je suis né dedans. Quoi.
Lucas Serdic, pardon.
Oui, pour nos auditeurs, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu votre âge? On se demande bien comment on fait, enfin, à quel âge on est 25 fois champion du monde?
Moi, j'ai eu 46 ans cette année.
46 ans, et vous continuez?
Ouais, je continue, bien sûr. Ouais.
Et vous êtes encore champion du monde?
Ouais, j'ai gagné cette année encore mon 25e titre.
Oh, c'est fantastique.
Et je vais normalement réattaquer pour la saison prochaine.
Et vous arrêterez quand?
Moi, je suis en pleine forme physique, je suis bien... Je suis motivé, je suis encore dedans. C'est un sport avec beaucoup, où il faut quand même beaucoup d'expérience. Il y a beaucoup d'entraînement, beaucoup de rigueur. C'est pour ça que. Mais bon, maintenant dans tous les sports, hein, l'âge moyen de beaucoup de sports augmente d'année en année, ça c'est sûr.
Maxime Brossard.
C'est pas trop dur la concurrence justement avec les jeunes. Enfin, comment ça se passe les relations avec vos jeunes concurrents? C'est, comment ils le voient eux? Ils vous vénèrent, non?
Ils me voient comme un sportif de leur âge, je pense. Moi je me suis beaucoup battu cette année avec un Italien qui a 28 ans. Et il faut quand même pas mal de maturité. C'est un sport très individuel où il n'y a pas énormément de moyens, donc on est obligé de faire beaucoup de choses nous-mêmes, que ce soit la recherche de sponsors, les déplacements, toute la préparation, les réglages. Donc c'est quand même un sport où il faut quand même être assez mûr. Hein.
D'accord.
Est-ce que vous avez déjà perdu?
Oui, j'ai déjà perdu, bien sûr. J'ai perdu beaucoup de compétitions dans ma carrière, mais c'est vrai que j'en ai gagné plus que j'en ai perdu. Mais en 2016, j'ai pas gagné le titre mondial, j'ai fini cinquième.
Oh là là,
c'est très mauvais. Vous étiez blessé, non?
J'ai pas eu une saison très facile. Ouais, j'ai eu un petit souci à un genou lors d'un entraînement en début de saison qui m'a un peu dérangé, mais je veux pas dire que c'est à cause de ça. Et puis voilà, ça s'est passé comme ça. J'ai eu un peu plus de mal que les autres années et la concurrence est quand même là. Et dès que tu laisses une petite porte ouverte, ça rentre à l'intérieur. Quoi.
Ah bah oui, parce qu'elle n'est pas souvent ouverte, la porte. Ah ouais,
Elle est ouverte avant chaque compétition, la porte.
Et pour expliquer un peu votre longévité, j'imagine que vous devez avoir une rigueur incroyable au niveau de la préparation physique. Vous ne faites jamais d'excès, parce que tenir aussi longtemps, ça en jette. Vous n'avez pas été beaucoup blessé, j'imagine, près de 25 fois champion du monde. Enfin, comment vous faites? Quel est un peu le secret de votre préparation?
Ben oui, la carrière est longue. J'ai quand même eu pas mal de blessures, mais pas très très graves. J'ai la chance d'être bien préparé et d'avoir quelqu'un qui me suit et qui m'a bien appris à me préparer, à préparer les blessures et à soigner les blessures. Ouais. Et ça c'est quand même super important d'avoir quelqu'un derrière qui sait te conseiller, surtout dans les années où t'as 20, 25 ans, 30 ans,
tu penses peut-être pas forcément à l'après, à te dire que, ah oui, c'est vrai, à 40 ans, je serais un peu plus usé qu'à 20 ans, quoi. Donc, c'est vrai qu'il y a eu, j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un qui m'a vraiment super bien conseillé.
D'accord. On parle de longévité, c'est ce que vient de dire Maxime Brossard. Votre premier titre de champion de France a été avec les moins de 14 ans en 1986. Il y a eu les moins de 18 ans 4 ans plus tard, avant d'être professionnel en 1992. Les titres ont commencé très tôt pour vous. On se souvient de ça ?
Ouais, je m'en souviens. Ça a commencé très tôt. J'étais en sport-études, moi, déjà à La Rochelle, à côté de l'île de Ré, là, sur le continent. Donc, j'étais dans une section voile où on faisait des déplacements le week-end, comme on peut voir dans n'importe quel sport au début. Et puis, c'est vrai que ça marchait super bien. Et j'ai gagné beaucoup de compétitions. Ouais. Donc, j'ai été très bien entraîné avec des entraîneurs qualifiés qui m'ont vraiment bien appris à faire de la planche à voile et à naviguer avec d'autres compétiteurs en compétition. Donc, c'est un peu l'école du sport, quoi, l'école de la voile. Hein.
Maxime Brossard.
Je reviens toujours sur la question de la longévité. Bon, là, je parlais de la préparation physique tout à l'heure. Et là, je parle du matériel. J'imagine que le matériel a aussi énormément évolué. Du coup, je pense que comment on s'adapte aussi à l'évolution du matériel ? Est-ce que finalement.
On anticipe.
Est-ce que vous anticipez ou est-ce que vous adaptez sur le moment ? Enfin, parce que j'imagine que ça a dû vraiment. L'introduction du carbone, je pense aussi. Enfin, il doit y avoir des révolutions technologiques, non, dans la voile.
Il y a énormément énormément d'évolution, mais l'évolution, c'est nous qui la faisons.
D'accord. C'est ça. D'accord.
Moi, je travaille avec mes sponsors et c'est pas moi personnellement, mais on a plusieurs riders, plusieurs compétiteurs dans les mêmes équipes avec lesquels on travaille ensemble, on fait du test, du développement.
Okay.
Et ce qu'il faut savoir, c'est que le matériel qu'on a, c'est du matériel strictement de série.
Ah oui, d'accord.
On a pu, à l'époque, quand j'ai commencé, on avait le droit au proto, tout ça. C'est vrai que c'est un petit peu la course à l'armement. Maintenant, on a vraiment du matériel de série qui est vérifié à chaque compétition.
D'accord.
Que ce soit avant, au milieu ou pendant, ou après. Et donc, tout le matériel que je vais avoir l'année prochaine, c'est le matériel que je passe mon temps à développer tout au long de ma saison de compétition pour avoir le meilleur matériel l'année d'après. Donc, il y a toutes les marques qui font vraiment de la recherche et développement. C'est vraiment super important. Parce qu'on est la publicité et on va porter les couleurs de marque la saison d'après.
Et
donc,
ça vous...
sinon, on ne fait pas des bons résultats, les gens peuvent dire que ça peut être à cause du matériel.
Ça vous permet d'être 25 fois champion du monde. Un exploit qui est incroyable, on le répète, il faut le répéter, 25 fois champion du monde, c'est quand même un truc gigantesque.
Ouais.
ces titres ont toujours la même saveur avec les années ? On ne se lasse pas ?
Non, on ne se lasse pas parce que si c'était facile ou...
Ouais.
Où chaque saison était plus ou moins la même, où je gagnais avant la fin, ou des choses comme ça, oui, c'est sûr, on pourrait se la faire. Mais là, chaque saison est particulière. J'ai eu des saisons beaucoup plus faciles que d'autres. J'ai eu des saisons où j'ai pas gagné. Cette année, ça a été super, super difficile. Je suis arrivé à avant la finale de la Coupe du Monde en Allemagne. J'étais deuxième. C'est l'Italien qui était devant. Et j'ai repris la tête lors de la finale. Donc, chaque saison a une couleur, quoi. Et a une différence. Donc, non, c'est une histoire différente chaque année.
On va revenir sur le sport brut, si vous me permettez l'expression. Sur ces 25 titres de champion du monde, il y a plusieurs disciplines. Il y a le slalom PWA, le IFCA, le Super X, la vitesse, le freestyle, etc. Est-ce qu'on peut dire que c'est comme si un athlète était champion sur le 100 mètres, le 200 mètres, le 400 mètres, le 100 mètres et ? Est-ce que c'est pareil ?
C'est exactement ça. C'est un petit peu des disciplines. On peut le comparer au ski plutôt.
Il y a la descente, il y a le super G.
Quoi qu'au ski, on est rarement champion de slalom et de descente. C'est une discipline d'un côté technique et de vitesse.
Il y en a eu, bien sûr.
Il y en
a eu qui ont gagné le combiné. Donc, c'est vrai qu'au début, tous les planchistes faisaient toutes les disciplines. Et puis, au fil des années, ça s'est un petit peu...
spécialisé.
Comment dire Chaque personne est partie plus ou moins en fonction du type de son gabarit, parce que c'est sûr, dans les vagues ou en freestyle, il faut avoir un gabarit un peu plus petit. En vitesse, en slalom, il vaut mieux être un peu plus lourd, plus grand, costaud. Plus fort. Donc, c'est vrai que maintenant, il y a très peu de planchistes qui font toutes les disciplines.
Lucas Cerdic.
Et c'est quoi, du coup, votre spécialité maintenant, la discipline sur laquelle vous excellez le plus ?
Moi, je suis beaucoup moins agile que quand j'avais 25 ans, donc avec les épreuves de freestyle, de vague, je n'y étais plus. Mais je suis vraiment actif sur le slalom et la vitesse.
Oui, justement, ça marche avec en fonction d'une Coupe du Monde. En fait, il y a plusieurs épreuves, il y a un classement général.
Voilà. Donc, c'est comme le circuit ATP au tennis. Oui. Il y a plusieurs grands prix ou grands slams, ça dépend comment on peut les appeler. Et puis, donc, on en a une dizaine ou une quinzaine dans la saison. On accumule les points et celui qui a le plus de points, eh bien, il est décrété champion du monde après la dernière épreuve qu'on appelle la finale.
Est-ce que vous avez déjà battu le record de points? Est-ce que vous le détenez?
Oui, il n'y a pas vraiment de record, mais je pense que oui, parce que j'ai fait des saisons où j'ai quasiment gagné toutes les épreuves, tous les grands prix qu'on a eus.
Ah ouais.
Donc, si on devait.
A priori, ça ressemble à un record quand même.
Tous ces titres, comment et où trouve-t-on la motivation alors que on le répète 25 fois champion du monde, il n'y a rien à prouver, il n'y a plus rien à prouver. Comment on trouve la motivation?
Il n'y a plus rien à prouver, c'est vrai. Après, si, il y a toujours des satisfactions qu'on aimerait avoir. Mais c'est vrai que c'est quand même un sport qui est... où je me bats un peu, parce que c'est un sport qui est vraiment très professionnel. Tu peux pas faire ça à mi-temps, tu peux pas faire ça avec un métier à côté. Il n'y a pas énormément d'argent à gagner. Les sponsors, ils ont du mal à donner du budget pour payer les voyages, les déplacements, tout ça. Donc c'est vrai que c'est devenu mon métier au fil des années, et c'est le métier de beaucoup sur la Coupe du Monde des planches à voile. Et c'est vrai que c'est dur, c'est toujours dur de s'arrêter. Moi, j'ai des sponsors qui me font confiance. Ils savent que avec Antoine, si on l'envoie sur telle compétition, il risque de gagner. Il a beaucoup de chances de gagner. Il va nous faire de la promotion. Donc, j'ai des sponsors qui quand même investissent sur moi parce que je suis quand même un bon cheval, quoi. Ouais. Donc c'est devenu mon métier. Et moi, j'ai pas forcément mis énormément d'argent de côté. Donc c'est vrai que si cette année, je me dis voilà, c'est mon 25e titre mondial. L'année prochaine, j'arrête. Je vais me balader, faire de la planche dans des eaux bleues partout où il fait chaud et tout. Je vais peut-être pas pouvoir le faire. Donc, j'aurai plus de rentrée d'argent. On a quand même des choses à payer quand on est être humain sur la Terre. Donc, c'est difficile de s'arrêter. C'est vrai que c'est devenu mon métier. Si j'arrête l'année prochaine, j'ai plus de revenus.
Oui, voilà, c'est ça. C'est la question que j'allais vous poser. Vous avez quelque part aussi un petit peu peur d'arrêter parce que vous savez pas ce que vous pourriez faire après.
Voilà, c'est la
bien sûr. Bon, après, c'est sûr que c'est difficile à dire, mais c'est un petit peu comme ça. Il y a beaucoup de sports comme ça, je pense.
Vous êtes le sportif français le plus titré, on le répète encore une fois. J'insiste, mais c'est important. Mais très peu de gens vous connaissent finalement. Comment vous l'expliquez?
Alors, c'est sûr que la seule explication, c'est les médias. Hein.
C'est ce que j'allais dire, c'est en partie à cause de nous.
C'est nous, hein.
C'est les médias qui se dirigent sur des facilités. Des facilités d'aller sur des sports très populaires, très faciles à vendre. Donc, ils se dirigent vers les sports qu'on connaît. J'ai pas envie de les citer, mais on les connaît très bien. Et s'il faut un article sur un tel, ça va mieux se vendre que s'il faut un article sur Antoine Albo. Et c'est un petit peu dommage parce que nous, on est quand même un sport qui est très
diversifié,
qui est quand même assez écologique. On se propulse avec le vent. On navigue pas forcément dans des endroits où c'est bleu tout le temps. C'est vrai qu'il y a des endroits, les épreuves dans le nord de l'Allemagne, ça fait moins rêver. Les épreuves à Hawaï ou en Nouvelle-Calédonie ou les chasses comme ça. Mais on est quand même un sport sain, quoi. Donc, c'est vrai que c'est plus facile pour les médias de se rapprocher des sports qu'on peut avoir en stade ou en salle.
Mais au fond, ça ne vous gêne pas que quand on pense aux titres mondiaux, on pense à Teddy Riner ou à Sébastien Loeb?
Ben oui, je sais. Moi, je connais bien nos amis de l'équipe. Et ils ont fait pendant des années le ranking des champions du monde. Et j'y étais jamais. Et à chaque fois, je leur disais, à chaque année, ils m'oubliaient. Bon, maintenant, ils m'oublient. Depuis quelques années, ils m'oublient plus maintenant. Ils me connaissent. Mais c'est vrai que les grands médias, comme on a à la télé, ils ont plus de facilité de parler de Teddy Riner ou Sébastien Loeb.
Et sinon, il faut passer sur Radio Présence avec grand plaisir. Lucas Serdic.
Est-ce qu'ils ne vont pas finalement l'Olympisme peut-être pour exploser? Parce que moi, sincèrement, je vais peut-être dire une bêtise, mais vous n'êtes pas de discipline olympique.
On est si la planche à voile, c'est discipline olympique.
Ah non, c'est même, je sais même pas.
Olympique, ils vont nous. Ce que je fais, moi, c'est la Formule 1 de la planche à voile.
D'accord.
Donc là, en fait, vous avez jamais fait les Jeux. Vous-même, vous avez jamais participé aux Jeux Olympiques.
Non, j'ai jamais fait les Jeux Olympiques parce que la planche à voile olympique, c'est une monotypie qui est gardée pour minimum 4 Olympiades. Donc ça veut dire 4x4, 16 ans. 16 ans sans évolution. Donc
oui,
on a de l'évolution tout le temps. C'est comme si t'achètes une voiture pour faire une course. Et dans 16 ans, tu vas recommencer à faire une course avec toi. Et tu regardes les voitures qu'il y aura à côté, l'évolution qu'il va y avoir, toi. Et puis, il faut un gabarit type en olympisme. Si tu fais plus de 78 kilos, avec le matériel que tu as à ta disposition, tu peux pas t'en sortir parce que tu vas être trop lourd, tu vas être trop lourd sur ta planche, tu vas pas avancer.
Antoine,
donc, moi, je fais 100 kilos. Donc, je fais une série olympique. En 92, oui. Je fais la préparation olympique. Avant Barcelone, mais après j'ai trop grandi, je suis devenu trop lourd.
Je suis passé
sur le fond dehors, sur la planche à voile.
Merci Antoine Albo, merci d'avoir été avec nous. On se retrouve la semaine prochaine sur.
Un euro, c'est le prix d'un journal quotidien. À combien estimez-vous le prix d'une présence à vos côtés 24 heures sur 24? Donnez